Drainville PM. Opinion.
Quand on connaît Régis, qui est un battant, ben moi je suis convaincu qu'il va revenir encore plus fort. Donc, je veux lui dire courage, Régis. On a hâte de te revoir en pleine forme.
Régis Labeaume atteint du cancer de la prostate. Luc Lavoie, on l'a appris hier après-midi.
Oui, puis ça a été un choc, hein, parce qu'il y a 62 ans. C'est pas très vieux de nos jours, 62 ans, mais c'est l'âge où cette maladie-là, généralement, apparaît, d'après les statistiques que je peux voir. Et là, ça m'a amené à une réflexion sur le stress associé à ce genre de métier. De premier ministre à maire, des gens qui ont été élus et qui vivent en démocratie et qui doivent prendre des décisions et qui doivent faire face à une opposition constante et au ridicule parfois et à des attaques parfois cruelles et même sournoises.
Exact.
Alors, j'ai fait un recensement des gens là, ici au Québec, là, dans nos annales politiques, qui y ont laissé leur peau. Duplessis, 1959. Il avait vieilli un peu Duplessis, mais il est mort soudainement.
Il est mort en fonction.
Il est mort en fonction. 1960, le 2 janvier, 100 jours après le décès de Duplessis, Paul Sauvé, qui est resté dans l'histoire comme l'homme des 100 jours, l'homme du désormais, on va changer. 1960, 100 jours au pouvoir, il meurt d'une crise cardiaque. 1968, Daniel Johnson.
Absolument.
À ce moment-là, était redevenu très populaire. Ce gars-là avait été ridiculisé pendant des années. Soudainement, il était redevenu populaire.
Il était à la manique.
Il était à la manique, puis il a laissé sa peau lui aussi, 1968. 1990, Robert Bourassa, qui a essayé de le cacher aussi longtemps qu'il a pu, mais qui était atteint d'un cancer de mélanome cancéreux. Il a fini par en mourir environ 4-5 ans plus tard. Il a été hospitalisé pendant des mois à Washington, près en banlieue de Washington, dans un hôpital spécialisé américain. Et là, tu t'amènes un peu plus loin, puis tu peux pas t'empêcher de penser à Lucien Bouchard, qui venait de vivre, évidemment, une période immensément stressante, passé d'ambassadeur du Canada à Paris, à ministre au fédéral, à deux élections, une partielle puis une élection générale, puis à la bataille qui a mené à son départ du gouvernement et à tout ce qui entourait le lac Meech. On est en 1990. Ensuite...
Il a failli être emporté par la bactérie mangeuse de chair.
Quatre ans plus tard, après avoir été devenu chef de l'opposition officielle à Ottawa, après tout ça, un stress énorme, la bactérie mangeuse de chair, il est passé à un cheveu de la mort. Et là, tu sais, je ne suis pas un spécialiste, là, mais je l'ai souvent demandé à des médecins, et même des médecins très reconnus et renommés. Et ce qu'ils me disaient, c'est, qu'est-ce que tu veux, quand le stress a comme effet, entre autres, d'étouffer le système immunitaire, de l'affaiblir considérablement, ouvrant ainsi la porte à n'importe quelle bactérie de toutes sortes. Alors, est-ce que c'est relié au stress? Je ne sais pas, mais je note que ça qui est arrivé.
Il y a ça, puis je vais te dire, Luc, pour en avoir fait de la politique, l'autre affaire, c'est que tu ne prends pas soin de toi.
Ouais.
Et donc, mettons que tu as des signaux, tu vas dire, ah, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, là. Pas le temps d'aller chez le médecin, moi, là. Tu sais, là, je dis, regarde, là, j'ai une élection qui s'en vient, j'ai un projet de loi à déposer, j'ai une bataille à mener, j'ai une assemblée.
Non, il y a du monde qui compte sur moi,
j'ai pas le temps d'aller chez le médecin.
Moi, c'est le cas de Brian Mulroney qui me fait le plus. D'abord, parce que j'étais très proche de lui et que j'ai vécu la période la plus stressante de sa vie, c'est-à-dire la mort du lac Meech, le printemps 90, jusqu'à la mort de Meech et en fait tout l'été qui a suivi. Et là, j'avais compris jusqu'où ça pouvait miner ce genre de stress. Tu sais, on se souvient, 1990, Clyde Wells a enlevé l'appui à l'accord du lac Meech. Gary...
Philman. Refuse de
passer le vote.
Oui. Jean Chrétien magouille aussi.
Jean Chrétien, on peut continuer longtemps, mais le fait est que t'es Brian Mulroney, t'es un humain, là. Puis lui, la vraie raison qu'il l'a amené en politique aujourd'hui, on dit que c'était le libre-échange, c'est pas vrai.
C'était la réconciliation.
C'est la réconciliation nationale. Le libre-échange, lors de la campagne au leadership de 83, M. Mulroney était contre et John Crosby était pour. C'est vrai, il faut le rappeler, ça.
Ben oui.
Alors, la vraie affaire pour Brian Mulroney, et il y croyait dans ses tripes, c'est Lisiane Gagnon, un jour, qui avait dit « Brian Mulroney est anglophone ». linguistiquement parlant, mais il est très québécois francophone,
dans sa fibre.
Émotivement.
Ah, ben oui.
C'est un vrai de vrai Québécois.
Mais c'est pour ça que les Québécois, encore aujourd'hui, tu regardes dans un sondage, Mulroney est toujours beaucoup plus populaire au Québec.
Ah, ben oui, hein? Évidemment.
Beaucoup plus.
Il est très Québécois. Alors, Mulroney, là, 1990, là, moi, je me souviens, là, je peux te décrire juste une soirée que j'oublierai jamais ou une journée. Mitch est mort le 24 juin 1990. Mais techniquement parlant, le 23 juin, vers 6h30 le soir, il y avait toutes sortes de raisons, trop techniques. Là,
ouais.
Il n'y avait plus rien à faire. On savait que c'était fini. Et il y avait comme une obligation du gouvernement de dire, bon, mais Mitch est mort. Parce que ça enchaînait toute une série d'affaires qui devaient se produire en cas d'échec. Et là, on était, je me souviens, avec Paul Tellier, qui était greffier du conseil privé. On était dans son bureau de l'édifice du Centre, puis on avait pour tâche qui nous avait été confiée par tout le monde, c'est comme il faut le convaincre de dire que Mitch est mort. Et je me souviens qu'on était dans son bureau, puis on y parlait très calmement. Puis il nous regardait les yeux hagards, puis il regardait dehors, puis il répondait jamais. Il disait pas oui, il disait pas non. Puis là, on sentait une tension.
Ah,
on sentait
c'est sûr.
Une tension. Alors, personne n'osait pousser davantage. Puis là, on sortait de son bureau. On parlait aux autres. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai dit à Paul, j'ai dit, on devrait demander à Don Mazankowski, qui était le vice-premier ministre, et que Mulroney aimait beaucoup.
Ouais, c'était un homme remarquable, Mazankowski.
Remarquable. Une grande sagesse.
Ah oui.
Monsieur Mazankowski est entré dans le bureau, Maz, comme on l'appelait. Ouais. Puis il a été avec toute la politesse puis la délicatesse Mulroney n'a jamais voulu. Alors, à un moment donné, moi, j'ai dit à ceux qui étaient là, en dehors du bureau, parce que lui, il était seul dans son bureau, il regardait dehors.
Ah.
Il était dans un état...
C'est quasiment dit, dépressif rendu là. Hein? C'est un down incroyable, là.
Et il voyait le pays, il voyait lui-même dans l'histoire, il voyait
sûr,
tout ça. Alors, j'avais dit aux autres, écoute, Lowell Murray, qui était le ministre des Relations fédérales provinciales, donc spécifiquement responsable du dossier de Mitch, pourrait sortir au nom du gouvernement puis annoncer la mort de l'accord du lac Mitch pour que le reste des événements qui devaient se produire s'enchaînent. On l'a dit, c'est moi qui est allé lui dire, M. Mulroney, on pense que Lowell pourrait faire la job. Il m'a jamais dit oui. Il m'a jamais dit non. Alors, je suis sorti de là, j'ai dit aux autres, écoutez, qui ne dit mot qu'on sent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Ben oui.
Parce qu'il doit avoir une adresse à la nation. Il ne peut pas faire une adresse à la nation s'il n'a pas annoncé la mort. On a fait l'annonce. Je me suis précipité à son bureau pour voir comment il réagissait. Il était comme dans une zone.
Ah oui.
Puis il ramassait ses affaires. Je me souviens, il ramassait son espèce de crayon feu qu'il utilisait tout le temps. Puis il est parti. Il a fait signe au gars de la sécurité. On s'en va. On part. Il était comme 9h30 le soir, le vendredi 23. Moi, j'en ai pas été témoin. On me dit que quand il est arrivé chez lui, sa famille l'attendait, Mila et les enfants. Et il paraît que ça a été extrêmement émotif.
Il a dû s'effondrer en larmes, c'est sûr.
Ça a été, le lendemain, je l'ai vu, évidemment, parce qu'il a fait une adresse à la nation. Il était dans un état... Je sais pas comment décrire ça. Moi, j'étais ému. Je savais plus trop quoi faire. J'avais presque pas dormi de la nuit parce qu'il fallait organiser tout ça. Et à partir de ce jour-là, l'été 90, ça a été, là, pour lui, pour nous tous qui étaient autour de lui, une sorte de...
Un deuil, non?
Ah, un très, très vilain, dur deuil. Et ça a été une grande saison internationale, en ce sens que 1990, c'était la réunification de l'Allemagne qui s'organisait, c'était ça. Il y avait des sommets, il y avait eu un sommet G7 à Houston, je m'en souviens, et il était dans sa suite à Houston. Et il broyait du noir.
Ah oui.
Et là, il y avait des tentations autoritaires. Dans le genre, un tel fait assez longtemps qu'il nous fait, tu sais quoi, moi, il réglait son cas. Bien, alors que Brian Mulroney, évidemment, on sait que c'est un Irlandais au sang bouillant, mais il était lui-même un modèle de on dit self-control, de maîtrise de soi.
Ouais.
Et là, il n'y avait plus de maîtrise. Là. À tel point que Mila, qui a toujours été sa femme, mais aussi sa partenaire en politique et tout, je pense que c'est elle qui a dit, Brian, cet été, là, on prend un vrai break. Et ils se sont en allés à la résidence d'Harrington.
Ouais.
Puis ils ont comme coupé le contact avec le bureau, tout ça. Pas complètement. Il n'est pas devenu irresponsable. Il était disponible pour les affaires d'État, mais on ne le voyait pas. Il ne parlait pas.
Il s'est refait intérieurement.
Et il y avait la crise d'Oka.
Ah, pardon.
Et là, la crise d'Oka, là, je me souviens très bien, ce qui n'est pas son genre d'habitude, là. Il avait dit à une équipe d'élite de la fonction publique, puis un ou deux ministres, là, vous vous arrangez avec ça. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et je me souviens une dernière chose. La semaine précédant la mort de Mitch, après la dernière réunion de la dernière chance à Ottawa, et qu'on attendait le vote à Terre-Neuve puis le vote au Manitoba, on avait reçu en grande pompe au Canada Nelson Mandela, pour lequel il avait travaillé énormément pour le faire libérer. Il venait de sortir de prison. C'était une visite immense, avec des foules immenses, comme j'en avais rarement vu. Et lui, ben, il l'accompagnait partout. Puis je me souviens, on était à l'hôtel Harbor Castle Hilton à Toronto. Puis là, ça se déroulait, puis je pensais que ça allait y donner un...
Un regain.
Non. Il y avait des espèces de tics nerveux chez lui. Puis je me souviens, j'étais assis avec lui, puis un de ses tics nerveux, c'est qu'il se bourrait de chocolat. Il y avait des plats de chocolat à côté de lui.
Ouais.
Puis là, j'étais assis avec lui, puis je dis, je savais pas quoi dire, tu sais. Je dis, M. Maloney, pensez-vous qu'on va réussir à passer ça, l'accord du lac Meech? Puis il m'avait regardé, là, les yeux, la mort dans l'âme, là, tu le voyais. Il m'avait dit, je le sais pas, lui. Arrête de me le demander, je le sais plus. Là, tu te dis, la politique, là, on est dur avec ceux qui en font. On est rough avec ceux qui en font. On les traite de tout et de rien. On oublie
que c'est des êtres humains, mon Luc.
On oublie que ce sont des êtres humains.
C'est pour ça que...
Et je regarde la bombe et je me dis, monsieur la bombe, lâchez pas.
Non,
là,
c'est ça.
Le type de cancer dont vous êtes victime est un de ceux qu'on soigne le mieux. Alors, bonne chance, on est avec vous. Puis s'il vous plaît, soyez un peu plus indulgents avec ceux qui font de la politique.
Oui.
Vraiment.
Absolument.
Je le pense.
Moi aussi. À tout à l'heure, Luc.
Bye.